Du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Matthieu. Texte de la liturgie catholique pour le dimanche de l'Épiphanie. Jésus ayant été enfanté à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Voici que des mages venus d'Orient arrivent à Jérusalem et disent
« Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile à l'Orient et nous venons nous prosterner devant lui. »
Entendant cela, le roi Hérode est troublé et tout Jérusalem avec lui. Ayant rassemblé tous les chefs des prêtres et les scribes du peuple, il s'informe auprès d'eux où le Messie est enfanté. Ils lui répondent
« À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem de Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée, car de toi sortira un chef qui fera paître Israël, mon peuple. »
Alors Hérode, ayant appelé les mages en secret, se fait préciser par eux le temps où l'étoile est apparue. Puis il les envoie à Bethléem en leur disant
« Allez vous renseigner avec précision sur le petit enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. »
Ayant entendu le roi, ils partent. Et voilà que l'étoile qu'ils ont vue à l'Orient les précède jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus du lieu où est le petit enfant. En voyant l'étoile, ils se réjouissent d'une fort grande joie. Allant dans la maison, ils voient le petit enfant avec Marie, sa mère, et tombant à genoux, ils se prosternent devant lui. Ils ouvrent leur coffret et en sortent des présents, or, encens et myrrhe. Avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnent leur pays par un autre chemin.
Chers auditeurs et auditrices, bonjour André.
Bonjour Georges. Quelle est la signification de cette histoire dans le récit évangélique? Quelle peut en être la signification pour nous chrétiens de l'an 2000?
Oui, eh bien regardons d'abord un peu le contexte de ce récit. Il faut se rappeler que Matthieu a le souci de montrer que Jésus accomplit les écrits de la Bible. Dans les chapitres de l'enfance, la généalogie qu'il fait de Jésus veut le situer comme étant le descendant de David et roi messie comme lui. Les cinq autres tableaux qui suivent vont aussi être illustrés par un texte de la Bible. La conception virginale sera illustrée par Isaïe au chapitre 7, la visite des mages par Michée au chapitre 5, la fuite en Égypte par Osée au chapitre 11 et le massacre des innocents par Jérémie au chapitre 31. Enfin, le retour à Nazareth sera illustré avec une citation attribué au prophète, on l'appellera Nazaréen. On peut aussi faire un parallèle entre l'enfance de Jésus, telle que Matthieu l'a décrit, et l'enfance de Moïse, qui est racontée dans l'Exode, et surtout dans les commentaires juifs qu'on appelle les Midrash. Eh bien, ces citations ont pour but d'inscrire le destin de Jésus dans l'histoire religieuse d'Israël. Matthieu ne fait donc pas un récit descriptif de l'enfance de Jésus à la manière de nos journées, il nous fait une lecture du destin de Jésus, et une lecture bien sûr qui est celle de la communauté chrétienne après Pâques. Dans les années qui ont suivi la mort de Jésus, les chrétiens vivent dans un milieu hostile, les milieux juifs les rejettent parce qu'ils considèrent ces chrétiens comme une secte hérétique. Alors dans un tel contexte, il était important de montrer la continuité entre la foi chrétienne et la Bible. Matthieu, pour cela, va employer une méthode traditionnelle d'enseignement qu'on appelle le Midrash. Le Midrash est un commentaire de la Bible, mais un commentaire qui rend actuel un fait ancien, un événement passé, une parole dite autrefois. Et cela pour bien démontrer que la parole de Dieu est toujours vivante et qu'elle revit en des situations nouvelles. Selon la pensée de Matthieu, Jésus va vivre et réaliser toute sa vie ce que les écrits de la Bible ont décrit de la vie du peuple de Dieu. Alors ce peuple, eh bien, il a connu l'oppression de peuples ennemis, l'exil. Il va en être de même dans la vie de Jésus enfant. En effet, la suite de notre récit décrira comment Joseph et sa famille fuiront en Égypte pour éviter la cruauté du roi Hérode, ce roi Hérode qui va décider de massacrer tous les enfants nouveau-nés de Bethléem.
Jésus ayant été enfanté à Bethléem en Judée.
Alors c'est curieux parce que tous les récits évangéliques nous disent que Jésus a vécu à Nazareth. Les récits de Marc et de Jean ne parlent pas du tout de sa naissance à Bethléem. Dans Matthieu et dans Luc, seuls les chapitres de l'enfance, les deux premiers chapitres, parlent de Bethléem. Alors pourquoi faire naître Jésus à Bethléem? Les deux généalogies de Jésus, celle de Luc et celle de Matthieu, qui sont pourtant différentes sur plusieurs points, sont cependant unanimes sur son appartenance à la dynastie de David. Chaque récit l'illustre à sa manière. Dans le récit de Luc, l'ange annonce à Marie que son enfant recevra le trône de David, son ancêtre. Et le voyage de Joseph et de Marie à Bethléem y est présenté comme une conséquence de l'appartenance de Joseph à la famille de David. Ils doivent se faire recenser dans cette bourgade parce qu'elle c'est celle où David a reçu l'onction royale des mains de Samuel 10 siècles plus tôt. Dans le récit de Matthieu, c'est autour d'une citation biblique qui concerne Bethléem que va être organisé le récit de la visite des mages.
Et toi, Bethléem de Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée, car de toi sortira un chef qui fera paître Israël, mon peuple.
Eh bien, cette phrase est composée de textes qui proviennent du prophète Michée, au chapitre 5, et du deuxième livre de Samuel, au chapitre 5 également. Au 8e siècle avant Jésus, en effet, Michée chante la gloire future de la dynastie de David. Michée vit dans une époque où les injustices sont criantes et creusent un fossé toujours plus grand entre une élite qui s'enrichit et le peuple qui s'appauvrit. Et alors Michée s'insurge.
Malheureux ceux qui projettent le méfait et manigancent le mal. Convoitent-ils des champs, ils les volent. Des maisons, ils s'en emparent. Ils saisissent le maître et sa maison, l'homme et son héritage.
Et à cause de ces injustices qui sont une infidélité à la Torah, à l'enseignement de Dieu, le prophète annonce la ruine de Jérusalem.
Écoutez, chef d'Israël qui bâtissait Jérusalem dans le sang et dans le crime. Ses chefs jugent pour un pot de vin. Ses prêtres enseignent pour un profit. Ses prophètes pratiquent la divination pour de l'argent. Jérusalem deviendra un monceau de décombres et la montagne du Temple un lieu de broussailles.
Le prophète annonce donc que, malgré tout cela, la cité de David, Bethléem, même si elle est une toute petite bourgade, sera celle qui redonnera à Israël un véritable roi messie, un chef, selon le cœur de Dieu.
Le Seigneur Dieu abandonnera son peuple jusqu'au jour où enfantera celle qui doit enfanter le Messie. Il se dressera et fera paître son troupeau par la puissance du Seigneur Dieu. Lui-même sera la paix.
On peut retrouver ici, dans le fond, un thème qui domine dans la Bible. C'est le petit, l'humble, qui porte le mieux la puissance du Seigneur. Plus tard, l'apôtre Paul entendra Jésus lui dire
« Ma grâce te suffit. Ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. »
Eh bien, c'est donc ce texte de Michée qui sera souvent repris par les commentateurs juifs pour annoncer que le lieu de naissance du Messie sera l'humble cité de David, Bethléem.
Au temps du roi Hérode.
Alors le texte de l'Évangile situe la naissance de Jésus au temps du roi Hérode. Or, selon l'historien juif Joseph, Hérode est mort en l'an 4 avant notre ère. Si Jésus est né du vivant d'Hérode, cela signifie qu'il y a eu une erreur de datation quand le moine Denis a établi le calendrier de l'ère chrétienne, notre calendrier actuel, au 6e siècle. Jésus serait donc né 4 ou 5 ans avant le début de notre ère, et nous serions donc déjà en 2004 après la naissance de Jésus. Peu importe, l'important du récit n'est pas une question de date, mais de bien comprendre la pensée de Matthieu. Son intention est de montrer l'opposition entre l'attitude du roi Hérode et l'attitude des mages. En effet, le roi tous les responsables de la vie religieuse du peuple, c'est-à-dire les grands prêtres et les scribes. Le roi et ses responsables ne vont pas accueillir Jésus, que Dieu pourtant va choisir comme le roi Messie, et ce seront des étrangers, les mages, qui vont aller se prosterner devant lui.
Le roi Hérode est troublé, et tout Jérusalem avec lui. Ayant rassemblé tous les chefs des prêtres et les scribes du peuple, il s'informe auprès d'eux où le Messie est enfanté.
Le trouble d'Hérode et celui des habitants de Jérusalem n'est pas de même nature. L'un a peur et les autres espèrent. Et en effet, pendant toute l'occupation romaine qui est commencée en 63 avant Jésus, chez beaucoup de Juifs, il y a une très très grande espérance que Dieu va enfin choisir un roi Messie pour libérer Israël des Romains. Dans ces années, plusieurs leaders vont d'ailleurs se présenter comme Messie et enrôleront des militants. Et hélas, Pilate lui-même fera crucifier 2000 insurgés. En l'an 70, cet espoir de libération finira par provoquer une insurrection, mais une insurrection qui sera réprimée durement. Le temple sera brûlé, Jérusalem sera détruite. Deux historiens latins, Tacite et Suétone, expliquent, nous permettent de comprendre les espoirs qui animaient les Juifs et leur donnaient le courage de s'insurger contre Rome. Écoutons Tacite, puis Suétone.
Beaucoup étaient persuadés de la vérité de ce qui était dit dans les livres anciens des prêtres, à savoir qu'en ce temps, l'Orient devait exercer la suprématie et que des hommes venus de Judée devaient dominer le monde. Dans tout l'Orient s'était répandue une ancienne croyance d'après laquelle des hommes venus de Judée domineraient le monde. Les Juifs se révoltèrent, interprétant en leur faveur cet oracle, qui en réalité se réfère à l'empereur romain Vespasien.
Oui, on voit que Suétone tire à lui ses pronostics. Mais à la lumière de ces deux textes de Suétone et de Tacite, on comprend mieux l'intérêt de ces mages et comment leur visite a pu provoquer l'inquiétude d'Hérode, car lui, en effet, c'est de l'empereur de Rome qu'il tient sa couronne. Et il voit donc en cet enfant un possible rival qui, dans quelques années, pourrait être reconnu par le peuple comme un roi messie.
Des mages venus d'Orient. Qui sont ces mages et d'où viennent-ils ?
Eh bien, le peu d'indications que nous donne le récit de Matthieu peut signifier qu'ils étaient tout simplement bien connus des premiers chrétiens. Les traditions diffèrent sur leur origine. Sont-ils des Perses, des Babyloniens, viennent-ils d'Égypte ou d'Arabie ? Peuvent être des prêtres, des magiciens, des astrologues. Mi-savants, mi-magiciens, les mages de l'Antiquité pratiquaient la divination, la médecine, l'astrologie et ils interprétaient les songes. Mais il ne peut en tout cas s'agir que de païens parce que la magie était bannie d'Israël. La plus sérieuse hypothèse est qu'ils venaient de Perse et qu'ils étaient des adeptes de la religion de Zarathoustra. Alors, quelle était cette religion ? Elle enseignait la croyance en deux principes éternels, le bien et le mal, qui étaient perpétuellement en lutte pour la domination du monde. La victoire définitive du bien sur le mal serait l'œuvre d'un personnage appelé un allié qui sera, disent les textes sacrés, la vérité incarnée et naissant d'une vierge qu'aucun homme n'aura approchée. Alors peut-être que cette figure de l'allié a été influencée par les croyances des Juifs alors qu'ils étaient en captivité à Babylone. On peut aussi penser que les mages ont conjugué la figure de l'allié et la figure du Messie juif. En tout cas, rien n'indique que les mages sont des rois, comme certaines traditions plus tardives le diront. Ce qui importe, c'est qu'ils soient des étrangers et que ces étrangers soient à recherche de la vérité sur le monde et sur son histoire.
Et voilà que l'étoile qu'ils ont vue à l'Orient les précède jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus du lieu où est le petit enfant.
Alors que pouvons-nous comprendre de cette étoile qui est observée par les mages ?
Y a-t-il eu un phénomène astronomique ?
Eh bien, évoquons ce qu'en dit un astronome français contemporain, Jean-Paul Parizeau.
Dans ces civilisations, les mages, devins et astrologues formaient un groupe privilégié qui possédait des pouvoirs religieux et politiques. Ces mages étaient familiarisés à la fois avec l'aspect des constellations et avec les prophéties annonçant la venue du roi des Juifs. Ainsi, il n'est pas inconcevable qu'un phénomène astronomique, interprété comme le précurseur de la venue du Messie, ait provoqué le déploiement d'une délégation vers la Palestine.
Mais qu'il y ait eu ou non un phénomène extraordinaire dans le ciel, ce qui importe, c'est le symbolisme du mot étoile à cette époque. Dans le monde grec, on parlait d'étoile pour désigner le destin d'un être humain. On disait qu'une étoile apparaissait à la naissance d'un grand homme. De nos jours, d'ailleurs, on entend encore l'expression « être né sous une bonne étoile » pour dire qu'on a de la chance dans la vie. Chez les Juifs, un Midrash rapporte comment des astrologues avaient annoncé la naissance d'Abraham.
Ils ont vu une étoile se lever dans les cieux. Cela indique un enfant qui prendra possession du monde entier.
On peut voir aussi ce lien entre l'étoile et un grand homme à travers les différentes versions d'une petite phrase d'un texte des Nombres au chapitre 24. Alors, on va lire trois versions de cette phrase, d'abord dans le texte hébreu.
Une étoile monte de Jacob, un sceptre surgit d'Israël.
Puis, la traduction de cette phrase dans le texte grec, celui de la Septante, vers l'an 250 avant Jésus.
Un astre se lèvera de Jacob, un homme surgira d'Israël.
Et enfin, la traduction araméenne au temps de Jésus.
Un roi se lèvera de Jacob, un libérateur et un chef de la maison d'Israël.
Eh bien, on voit ainsi l'évolution du texte et comment l'étoile, l'astre, va être remplacée par le roi, dans la traduction araméenne, qui est une interprétation du texte biblique, et le sceptre va être remplacé par un homme, puis par un libérateur. En parlant du Messie, un autre texte juif, le Testament de Lévi, écrit « Son étoile se lèvera comme celle d'un roi ». Enfin, une autre indication, en 135 de notre ère, le chef Zélote, qui provoquera une insurrection contre Rome, va se présenter comme le Messie et il va prendre pour nom Bar-Kokhéba, ce qui veut dire « fils de l'étoile ». L'étoile est donc le symbole de la naissance d'un enfant promu à un destin divin, le destin de roi Messie, le roi consacré par Dieu.
Pourquoi l'étoile est-elle le guide des mages?
Eh bien, deux explications peuvent en être données. D'abord, les écrivains romains, Pline et Suétone, rapportent qu'en l'an 66, des mages perses ont fait le voyage de Rome pour honorer l'empereur romain Néron, et ils l'ont fait sur l'indication des astres. En effet, dans la pensée des astrologues de l'Orient, il y avait une association entre étoile et royauté dans la constellation du Lion. D'autre part, dans certaines traditions juives, les étoiles étaient considérées comme des anges, des messagers divins. Alors on voit que dans ce texte de Matthieu, on est très proche du récit de Luc, où ce sont aussi des messagers divins, des anges, qui vont indiquer le chemin de la crèche, mais cette fois aux bergers.
Allant dans la maison, il voit le petit enfant avec Marie, sa mère, et tombant à genoux, ils se prosternent devant lui. Ils ouvrent leur coffret et en sortent des présents, or, encens et myrrhe.
L'or, l'encens, la myrrhe sont des richesses et des parfums qui sont des choses traditionnelles de l'Arabie. À l'époque de Jésus, pour ce roi Messie qu'on attendait, les Juifs espéraient, et ça c'est important, que toutes les nations viendraient lui rendre hommage et lui apporter leur présence. C'est ce qu'évoquait un texte d'Isaïe au chapitre 60.
Des multitudes de chameaux te couvriront, des dromadaires de Madian et d'Épha. Tous ceux de Saba viendront, apportant de l'or et de l'encens, et chantant les louanges du Seigneur.
Mais si Jésus est adoré par des païens, il y a là une préfiguration de ce qui adviendra de sa mission. Souvent, Jésus rappellera que des païens viendront prendre part au festin éternel du règne de Dieu.
En entendant le centurion païen, Jésus fut plein d'admiration et dit à ceux qui le suivaient, « En vérité, je vous le déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront du levant et du couchant prendre place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. »
Et la finale du récit évangélique de Matthieu est sans équivoque.
« Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit.
Et de fait, aussitôt après Pâques, eh bien, les peuples païens vont être accueillis dans la communauté des disciples du Messie Jésus.
Le rejet de Jésus.
Eh bien, dans le récit évangélique de Luc, l'enfant Jésus va être accueilli par des pauvres, ce sont les bergers. Dans le récit de Matthieu, ce sont des étrangers qui donc reconnaissent le destin exceptionnel de l'enfant de Bethléem. Eh bien, ce qui caractérise ces deux, les bergers et les étrangers, c'est qu'ils illustrent le drame de l'Évangile, c'est-à-dire le rejet de Jésus par l'élite de son propre peuple.
Comment comprendre que Jésus a été rejeté?
Oui, il le sera principalement par les autorités religieuses, c'est-à-dire par les prêtres du temple, par les scribes qui sont les interprètes officiels de la Torah, et aussi par l'ensemble de la confrérie des pharisiens, les gens très pieux qui avaient une très grande influence sur le peuple. Pourquoi cela? Eh bien, n'est-ce pas parce qu'on attendait un Messie dans la puissance, la grandeur d'un roi. Et la manière dont Dieu va choisir son Messie déroutera beaucoup de Juifs. Il n'y aura pas de palais pour abriter le Messie, pas de soldats pour le protéger, pas de prêtres pour le consacrer. Alors, oui, Dieu peut-il se révéler dans cette petitesse, dans cette nudité, dans ce qui est l'ordinaire d'une vie sans importance ? La manière d'agir de Dieu nous déroute, car le monde ne s'y attend pas. Comme le dit le récit de Jean, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Et l'apôtre Paul dira que l'humilité du crucifié a fait scandale.
Nous prêchons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens.
Et le message de ce texte est toujours d'actualité. Comment comprendre que Dieu nous déroute ainsi ? Peut-être que notre vision de Dieu est encore celle d'un pharaon tout-puissant qu'il faut plus ou moins craindre, et non pas le visage d'un père très bon, d'une mère pleine de tendresse. Comment la naissance et la mort de Jésus nous font-ils comprendre le vrai visage de Dieu, la vie réelle de Dieu? En effet, qui aurait prévu un Dieu qui naît? Et encore, naître dans un palais, mais pas dans une mangeoire. Qui aurait prévu un Dieu qui meurt? Encore peut-être comme tout humain, mais pas sur une croix. Qui aurait prévu un Dieu qui ressuscite à la fin des temps, peut-être, mais tout de suite. Cela est vraiment imprévu. Et cette imprévisibilité de Dieu nous enseigne sans doute que Dieu n'est pas le résultat de notre invention et de notre imagination, mais que c'est Dieu lui-même qui se révèle, et non pas l'être humain qui le découvre et qui le fait à son image. En agissant ainsi, Dieu veut nous ouvrir les yeux sur ce qui est l'essentiel de la vie. En effet, en qui et en quoi plaçons-nous notre espérance? Dans les grandeurs de ce monde, l'argent trompeur, la gloire qui est toujours éphémère, la puissance, mais la puissance est le plus souvent destructrice. Ou bien, plaçons-nous notre espérance dans l'amour vrai et humble, qui est finalement seul ce qui compte et qui fait vivre en vérité. Ce ne sont pas toujours ceux qui sont vraiment bien installés dans la foi en Dieu qui savent le mieux reconnaître sa présence et son action dans le monde. Beaucoup de membres du peuple de Dieu n'ont pas reconnu Dieu en Jésus, dans l'humble Messie des humbles, né dans une mangeoire de Bethléem, ni dans le paysan de Nazareth, un village d'où rien ne sortait de bon, dans cet homme mort à 33 ans sur la croix des malfaiteurs. De même, nous, chrétiens d'aujourd'hui, nous pouvons être aveugles sur sa présence parmi nous. Le voyons-nous, en effet, ce Dieu agissant dans ce bouddhiste, dans cette musulmane, dans cet incroyant, dont le cœur est rempli pourtant de bonté miséricordieuse? Le découvrons-nous dans ce quêteux qui nous gêne et qui pourtant nous invite à la compassion? Le découvrons-nous dans ce pan qui nous insécurise, dans ce voleur, ce criminel qui nous appelle à ouvrir notre cœur à une vraie solidarité? À la croix, c'est un larron qui a reconnu Jésus comme étant un homme juste. Et ce sera encore un païen, un étranger, le centurion romain, qui s'écriera « Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu ». L'Emmanuel, Dieu parmi nous, est encore présent. Et c'est en effet sur ces paroles de Jésus que Matthieu clôt le récit de l'Évangile.
« Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. »
Le croyons-nous vraiment? Le vivons-nous réellement? Oh, puissions-nous, comme les mages, le chercher, nous déplacer, le découvrir et l'accueillir dans le silence de l'amour.
C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi et du Catéchuménat de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-254-8750.
254-8750, n'appelez pas après 22 heures. Utilisez aussi notre télécopieur, c'est le numéro 256-1106. Vous nous trouverez aussi sur Internet, téléphonez-nous, nous vous donnons l'adresse de notre site. Vous pouvez aussi vous abonner pour 3 mois, pour 6 mois ou pour 1 an, soit au feuillet, soit aux cassettes.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et à 23h. Choix musical et enregistrement, Jean B. Duchaud.
Chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine. Ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.